Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny. Le chrétien est une personne lumineuse. Le pape François, ce dimanche, lors de l'Angélus place Saint-Pierre, nous a offert une catéchèse basée sur l'évangile du jour. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il a aussi prié pour les malades, dont la journée mondiale sera célébrée mardi, fête de Notre-Dame de Lourdes. Et il a eu une pensée pour les Jeux d'hiver de Sotchi. Que la curie romaine soit un instrument sans lourdeur au service de la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui, c'est le souhait émis cette fois par Mgr Pietro Parolin, le secrétaire d'État, dans un entretien au quotidien italien catholique L'Avenir. Afin de préparer le synode des évêques sur la famille d'octobre 2014, Rome avait proposé un long questionnaire afin de consulter le peuple de Dieu. Le succès a été au rendez-vous et les premiers résultats ont été publiés, notamment par l'épiscopat de Belgique. Nous les passerons en revue. Enfin, que serait un dimanche sans l'invité de Sœur Catherine Aubin ? Rencontre cette semaine avec une femme peintre, elle s'appelle Isabelle Ducrot. Comment voulez-vous vivre, comme une lampe éteinte ou une lampe allumée ? Le pape François nous a désormais habitués à ce genre d'interpellation lorsqu'il est devant la foule de l'audience générale ou de l'Angélus. Et ce fut encore le cas ce dimanche, alors que pour sa catéchèse, il partait de l'évangile du jour. Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Manuela Fidji.
Ces paroles ne sont-elles pas étonnantes, s'est interrogé François, si l'on pense à l'auditoire que Jésus avait devant lui. Ses disciples étaient en effet des pécheurs, des gens simples, mais Jésus les regarde avec les yeux de Dieu, et ce qu'il leur dit se comprend comme la conséquence des béatitudes. Autrement dit, si vous êtes pauvre d'esprit, doux, le cœur pur, miséricordieux, alors vous serez le sel de la terre et la lumière du monde. Pour mieux comprendre ces paroles, ajoute le pape, il faut savoir que la loi hébraïque recommandait de mettre un peu de sel sur chaque offrande présentée à Dieu comme signe d'alliance. La lumière, ensuite, pour Israël, était le symbole de la révélation messianique qui triomphe sur les ténèbres du paganisme. Les chrétiens, nouvel Israël, reçoivent donc une mission à l'égard de tous les hommes. Avec la foi et avec la charité, ils peuvent orienter, consacrer, rendre féconde l'humanité. Pour le pape, nous tous, baptisés, sommes des disciples missionnaires et nous sommes appelés à devenir dans le monde un évangile vivant. Avec une vie sainte, nous donnerons de la saveur à tout ce qui nous entoure, nous le défendrons de la corruption comme le fait le sel et nous porterons la lumière du Christ comme le témoignage d'une charité simple. Mais si les chrétiens perdent cette saveur et s'éteignent, leur présence perd alors toute son efficacité.
Le pape a par ailleurs évoqué la fête du 11 février, mardi, où nous célébrerons Notre-Dame de Lourdes et nous vivrons la journée mondiale du malade. C'est l'occasion propice pour mettre au centre de la communauté les personnes malades, de prier pour eux et avec eux, d'être à leur côté, a déclaré le pape. Imitons l'attitude de Jésus envers tous les malades. Le Seigneur prend soin de tous, il partage leurs souffrances et ouvre leur cœur à l'espérance. Le pape a aussi rendu hommage au personnel de santé pour leur travail si précieux auprès des malades. Il a eu une pensée pour les familles qui ont en charge des malades graves, rappelant que la dignité de la personne ne diminue pas avec l'invalidité ou la dépendance. Après l'Angélus, le pape François a eu aussi une pensée pour les Jeux d'hiver qui se déroulent à Sotchi, en Russie. « Je voudrais faire parvenir mes salutations aux organisateurs et aussi à tous les athlètes », a déclaré le pape, en souhaitant que ce soit une vraie fête du sport et de l'amitié. Enfin, le pape a prié pour tous ceux qui subissent des dommages à cause des calamités naturelles en divers pays, rappelant que la nature nous met au défi d'être solidaires et attentifs à la protection de la création pour prévenir autant que possible des conséquences encore plus graves. « que la curie romaine soit un instrument sans lourdeur au service de la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. C'est le souhait émis par Mgr Pietro Parolin dans un entretien au quotidien italien catholique L'Avvenire. Le secrétaire d'État du Saint-Siège évoque de nombreux thèmes, de la collaboration avec le pape François au rôle de la diplomatie vaticane en passant par le conflit syrien et l'épisode douloureux du Vatilix. Mon style ne peut être que celui du pape François, un style auquel je m'identifie profondément, dit-il. C'est sur ces mots que débute la longue interview de Mgr Parolin. Le futur cardinal s'arrête sur le renouveau de l'Église auquel le pape ne cesse d'appeler tous les fidèles avec insistance et il observe que la secrétaire d'État devra assumer avec une disponibilité totale la conversion pastorale proposée par François. Plus encore, ajoute-t-il, d'une certaine manière, elle devra devenir un modèle pour l'Église entière. Mgr Parolin assure que la diplomatie vaticane doit être engagée auprès des peuples dans la construction d'un monde humain et fraternel dans lequel les plus faibles et les plus vulnérables puissent être protégés. Il est donc nécessaire, insiste encore Mgr Parolin, que la curie romaine devienne un instrument sans lourdeur, moins bureaucratique et plus efficace au service de la communion et de la mission de l'Église universelle et des Églises particulières. Afin de préparer le synode des évêques sur la famille d'octobre 2014, Rome avait proposé un long questionnaire afin de consulter le peuple de Dieu. Le succès a été au rendez-vous et les premiers résultats ont été publiés. Ce questionnaire de 38 questions avait été rédigé par le Vatican et transmis au diocèse le 5 octobre dernier. En Belgique aussi, ce questionnaire a été réceptionné et de nombreux fidèles y ont répondu. Ce sont près de 3000 personnes, dont 70% de francophones, qui ont participé aux réponses, notamment au sein de groupes d'église. Parmi les fidèles, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur reconnaissance à l'église pour leur permettre de donner leur avis. Ce type de consultation est en effet assez inédit, généralement réservé aux évêques et aux théologiens. Le questionnaire était cependant perçu par certains fidèles comme difficile à comprendre. Ainsi, les questions sur la loi naturelle sont fréquemment confondues avec la loi de l'Église ou encore le terme « nullité du mariage » confondu avec le divorce civil. Le vocabulaire employé est en effet emprunté à la théologie ou au droit canonique, soit un vocabulaire un peu complexe. Mais passons au compte-rendu de ce questionnaire et des réponses avec Cyprien Viette.
Le premier dépouillement effectué par des théologiens indique que les fidèles ont principalement connaissance de l'enseignement de l'Église par les médias. Sachant que les médias généralistes ne sont pas toujours tendres avec la religion catholique, on peut se demander si l'information reçue n'est pas biaisée. Dans l'ordre, ce sont ensuite les homélies dominicales, les groupes de prière et les écoles catholiques qui permettent aux fidèles de découvrir la doctrine de l'Église. L'analyse montre que la connaissance et l'acceptation de la doctrine de l'Église sont un peu à la carte. On accepte ce que l'on veut bien, mais pas tout. Si certains répondants expliquent vouloir vivre en chrétien grâce à l'enseignement de l'Église, un bon nombre estiment que les valeurs chrétiennes sont dépassées ou doivent s'aligner sur l'esprit du monde contemporain. Pourtant, les répondants estiment que la société actuelle est complètement dérégulée. On apprend que les catholiques belges sont très attachés à ce que l'Église puisse accueillir chaque personne, malgré ses différences ou ses erreurs. Ce point est particulièrement mis en avant concernant les personnes homosexuelles ou les divorcés. À l'image du pape François, les catholiques belges tiennent à ce que l'Église soit perçue comme une mère aimante, sans rejeter ce qui se présente à elle. Faire l'Église, c'est aussi reconnaître que les familles ont besoin de l'apport de la communauté pour arriver à grandir dans la foi, d'où le besoin de communauté vivante. Les réponses soulignent aussi le rôle essentiel joué par les femmes dans la vie de l'Église. Ce sont elles qui transmettent la foi aux enfants et les accompagnent dans leur cheminement. Ce qui ressort en tout cas des réponses au questionnaire, c'est le grand besoin de formation. Les catholiques flamands comme francophones se sentent concernés mais pas assez formés. La formation des laïcs devrait donc se révéler le grand chantier de l'après-synode.
Retrouvons à présent Sœur Catherine Aubin, l'invitée de ce dimanche. Vous la connaissez peut-être sans le savoir. Il s'agit en fait d'une peintre qui s'appelle Isabelle Ducrot. C'est elle qui a réalisé notamment les frises qui ont illustré les éditions du journal de l'Osservatore Romano lors de l'élection et du début du pontificat du pape François. Pour ses œuvres, elle utilise des tissus et entre autres des étoffes très fines provenant des pays asiatiques et qui servent à recouvrir des statues sacrées. À partir de ce matériau, Isabelle Ducrot crée des motifs répétitifs et cette répétition devient devient porteuse pour elle d'une signification spirituelle qu'elle apparente même à la prière. Interrogée par sœur Catherine Aubin, Isabelle Ducrot nous explique ce dimanche son parcours et sa façon originale de créer à partir des tissus. Ses œuvres sont exposées de façon permanente à la Galerie nationale d'art moderne à Rome.
Isabelle Ducrot, vous êtes peintre. Votre nom est français, mais vous êtes italienne. Peut-on vous demander, Isabelle Ducrot, quelles ont été et quelles sont aujourd'hui vos sources d'inspiration ?
Je suis italienne, mais surtout, je suis napolitaine. Ça fait une grande différence. Je reste tout à fait napolitaine. Et ça veut dire qu'on donne une grande importance au destin, finalement, que les choses arrivent plutôt qu'on veut qu'elles arrivent. Ce n'est pas un programme très clair. Donc, si je dois parler d'inspiration, je peux vous dire que je n'ai pas eu une inspiration, mais les choses sont arrivées tout à fait. Je n'ai pas fait d'académie, je ne savais pas que je savais dessiner. À un certain moment, j'ai commencé à dessiner, mais je n'avais jamais étudié le dessin. Et puis, la chose assez particulière, je pense, que tout ça s'est arrivé après mes 50 ans. Avant, j'avais aucune idée que j'aurais pu peindre et que quelqu'un aurait pu aimer mes œuvres et puis que j'aurais publié des livres et que des musées m'auraient accepté, invité. Tout ça, c'était absolument inouï.
Est-ce qu'on peut vous demander, Isabelle Ducrot, quel a été le déclic ?
Je pense que c'est la vie. C'est la vie, la combinaison. Après 50 ans, il y a eu beaucoup de combinaisons. Les choses se sont tout d'un coup naturellement produites. Et la chose, la plus grande surprise pour moi, c'est que je communiquais quelque chose et les gens répondaient.
Alors, par quoi avez-vous commencé ? C'est-à-dire, quelles ont été vos premières peinture.
Je utilisais des étoffes parce que c'était important pour moi, une collection d'étoffes que j'avais fait depuis 10 ans, comme ça, et j'étais très intéressée aux étoffes. Je pensais à la couleur des étoffes. Après, j'ai compris que c'était la structure du tissu qui m'intéressait beaucoup plus que
la structure du tissu.
Oui.
Et pourquoi ?
Je pense que maintenant, après tout, cette réflexion sur ce qui m'est arrivé, j'ai compris c'est l'esprit caché. C'est l'esprit caché des choses.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit caché des choses ?
L'esprit caché, c'est que quand, tout le temps, nous avons des étoffes autour de notre corps. On ne pense jamais à la structure simple, même parce que les étoffes le cachent. Quand on voit un velours, ou bien un satin, une soie, on ne voit pas la structure, mais sans la structure, il n'y aurait pas le tissu. Donc, j'ai compris peu à peu, très lentement, la faculté infinie symbolique du tissu, comme œuvre tout à fait humaine, mais tellement ancienne, tellement primitive. Et tout d'un coup, toute cette liaison entre la symbolique du tissu et la vie et la pensée, et je les ai, sont devenus une seule chose. Tout ça m'est arrivé sans intention.
Oui. Vous êtes surprise vous-même.
Je suis encore surprise.
On sait par ailleurs que une de vos sources d'inspiration, ce sont vos voyages, l'Afghanistan.
Si.
Et aussi, certains critiques disent de vous que votre art, c'est aussi une forme de religion.
Je dois vous dire qu'en occasion de cette exposition qu'il y a maintenant, que j'ai dédié tous mes travaux à des tissus bouddhistes, qui sont ceux que les pèlerins achètent pour le mettre sur les statues. Et donc, c'est un objet sacré, c'est un objet de religion, parce que c'est comme une prière. Au Tibet, c'est pas facile de trouver les fleurs comme en Inde. Donc, ils donnent quelque chose que c'est une main d'œuvre humaine. Au lieu des fleurs, ils donnent ce petit artisanat. Donc c'est quelque chose qui comporte la religion, la pensée religieuse des gens qui les offrent. Et j'ai utilisé ça et puis je l'ai lié avec une représentation qui pour moi est comme la prière, même seulement formelle, c'est la répétition. Je pense que dans toutes les religions du monde, on répète une litanie, une supplication, c'est toujours...
Ou bien la prière du cœur chez les orthodoxes.
Si, voilà. Donc, tout ça, c'est la répétition. Donc, j'ai reporté ce tissu qui part d'un côté sacré à une liaison avec toutes les prières du monde.
Qu'est-ce que cela veut dire, cette répétition ?
Pour moi, c'est la beauté. Une chose que j'ai compris dès que j'étais en Orient, que ces motifs répétitifs, chez nous, on peut les user seulement comme décoration d'un sujet plus sérieux. Et ce que nous appelons la décoration, c'est le centre du tableau. Donc, j'ai vu, par exemple, des tapisseries merveilleuses qui m'ont très émue quand je les ai vues. C'était seulement des bouleaux rouges dans un fond plus clair. Et c'était comme un hymne sacro. C'était comme une musique.
Exactement, ça résonnait.
C'était quelque chose d'extrêmement beau. Donc, j'ai été séduite de la répétition. J'étais séduite. Et donc, j'ai commencé à faire des boules rouges sur quelque chose de blanc, et puis continuer. Et donc, on les a associées à la prière. C'est quelque chose qui c'est pas un discours logique, mais c'est seulement la joie de répéter quelque chose. Et donc, la prière, c'est la chose la plus proche à la répétition.
Est-ce que c'est à partir de la répétition que finalement votre chemin est allé vers la prière ?
Si, parce que je l'ai associé à ce qu'est la prière dans le monde.
Alors, dites-nous pourquoi, Isabelle Ducrot, vous associez la répétition à la prière ?
Parce qu'il y a beaucoup de prières qui ne sont pas dialectiques. Et donc, j'ai fait ce lien. Mais ce n'est pas un lien fondamental. C'est ce qui est arrivé.
Oui.
J'ai commencé à penser que quand les gens du néolithique qui ont commencé à tisser et à faire des tissus, la utilisation du tissu, c'était quelque chose de secondaire. Mais peut-être, j'ai pensé que la vraie raison qu'ils ont exercé leur technique si compliquée dans un moment où ils commençaient à être des sédentaires, c'est tellement sophistiqué que j'ai vraiment pensé qu'il devait être quelque chose de très lié peut-être à la religion de ce moment-là. Et surtout que dès que le tissu monte, marche, se réalise, en même temps, il arrache l'esprit. Et pour esprit, j'entends quelque chose qu'il y a, grâce auquel le tissu a ses caractères, sa spécificité. Et donc, il arrache ce qu'on ne voit pas, mais qui rend le tissu très différent du papier, par exemple.
Mm-hmm.
Le papier accepte l'esprit. Mais seulement quand quelqu'un va y écrire un poème, une pensée. Mais le tissu transforme la matière, le textile, la matière, les fibres. Le tissu a une sorte d'âme. J'ai trouvé au Tibet une vraie prière, une prière de remerciement au Dieu d'une famille peut-être très riche, parce que c'est une prière merveilleuse à voir en soi. Et là, il y avait eu vraiment un croisement, une collaboration entre la marche du tissu qui monte et la prière qui monte aussi. Tous les deux se composent dans le même moment. Donc là, j'ai vu une vraie liaison entre la parole et les tissus. Les tissus, c'est peut-être la chose la plus proche à ce que nous sommes. Nous sommes chair et esprit.
Ainsi prend fin ce magazine de Radio Vatican. Retrouvez-nous sur notre site internet à www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.